6h, 8h.
Matin première.
Il est 7h48 tout au long de ce week-end, commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, un événement qui a une résonance assez particulière en Flandre. Aux yeux du mouvement flamand, la Grande Guerre reste perçue comme un moment d'affirmation de la conscience flamande face à l'oppression de l'État belge francophone. Pourquoi ? Quelles sont les résonances encore maintenant ? Nous voyons cela avec l'historien Bruno De Wever. Il est votre invité en direct d'Anvers, Thomas Gadisseux.
Bonjour Bruno De Wever.
Bon matin.
Est-ce qu'il y a deux lectures de l'histoire de la Grande Guerre, l'une une lecture francophone et une lecture flamande ?
Ouais, au moins, on a vu dans les commémorations des années précédentes que dans le monde francophone belge, plutôt 14, l'invasion allemande, les villes martyrs et aussi le pays occupé étaient le sujet. En Flandre, et surtout le gouvernement flamand a vraiment pensé sur Flanders Fields. Et je le dis en anglais parce que il y avait un but politique clairement pour mettre la Flandre dans la vitrine mondiale par la Première Guerre mondiale.
Ça veut dire que 100 ans plus tard, on a fait de cet événement historique un élément politique en Flandre.
Oui. Pas seulement, il y avait beaucoup d'événements, et ce sera injuste de dire que c'était seulement ça, mais j'ai vu clairement à 14, la volonté de faire connaître la Flandre par le grand histoire Flanders Fields, qui est très connu au monde et surtout au monde anglophone.
Avec un musée, avec une puissance justement de l'industrie touristique, du secteur
aussi,
touristique.
Aussi, c'est un autre but aussi d'attracter des touristes. C'est bien réussi. Hein.
Et si le ministre-président flamand Geert Bourgeois, depuis justement 10 ans, a fait de cet élément historique une vitrine aussi politique, c'est parce qu'il y a une résonance dans le mouvement flamand. Est-ce qu'on peut dire que la Première Guerre mondiale, c'est l'origine du mouvement flamand ?
Non, pas l'origine du mouvement flamand, parce que le mouvement flamand et le flamingantisme est né, disons, avec la Belgique en 1830, avec le problème linguistique. Mais c'est clair que la Première Guerre mondiale a joué un rôle important dans la radicalisation du mouvement flamand. En deux sens, on a vu dans la Première Guerre mondiale, au front, mais aussi aux pays occupés, la naissance du mouvement nationaliste flamand anti-belge. Et à l'autre sens, et c'est moins connu, on a vu aussi une radicalisation au point de vue flamingantisme, mais pas au sens politique strictement dit, mais plutôt au point de vue du sentiment, d'un sentiment d'injustice parmi la vaste majorité des soldats flamands.
Et ce sentiment d'injustice, il est nourri d'un mythe historique comme quoi les soldats flamands dans les tranchées ne comprenaient pas les ordres des officiers francophones. C'est une réalité historique ou c'est un mythe nationaliste ?
Ils ne comprennent, la vaste majorité des soldats flamands ne comprenaient pas le français. Ça, c'est pas un mythe. Mais le mythe est que par cause de ça, ils sont morts. Hein. Ça, c'est un mythe qui est né plutôt après la guerre pour faire comprendre cette injustice. Comme tous les mythes, hein, il y a un nucleus de vérité, mais le mythe est plutôt à comme but pour faire comprendre cette injustice.
Et ce que vous expliquez, c'est que donc ce flamingantisme, hein, ce mouvement qui voulait faire en sorte que le français et le néerlandais soient sur un même pied d'égalité en Belgique, va être le terreau qui va nourrir, le moteur qui va nourrir ce mouvement flamand. il va être symbolisé dans la région par le mémorial de Dixmude avec ce pèlerinage de l'Isère, où les tombes des soldats tombés dans la première guerre vont jalonner hein, ce pèlerinage. Il va y avoir un chemin fait avec l'ensemble de ces tombes. Ça va nourrir clairement le mouvement flamand.
Oui. Les pèlerinages et le tour de l'Isère, qui était là depuis 1930, est vraiment un symbole et aussi un champ de rhétorique qui a vraiment nourri ce mythe. Mais aussi en Flandre, ce tour est une signe de division hein, entre radicaux et plus modérés, mais aussi un signe de débat entre les catholiques et les non-catholiques. Hein. C'est pas le symbole des Flamands. Hein.
Et sur cette tour, il y a une inscription AVV, VVK, Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Une inscription qui va se retrouver encore jusqu'à très peu à la une d'un grand journal flamand, le Standard, pour montrer que ça a quand même encore une résonance importante politique dans la classe politique flamande.
Oui, mais c'est disparu maintenant. Hein, au Standard, comme vous savez certainement...
ça fait 15 ans que ça a disparu. Est-ce que politiquement, on se nourrit encore de ces mythes-là ?
Oui, c'est difficile à dire. Hein. La classe politique, bon, c'est quoi ça? Ils sont très divisés. Je peux dire le suivant. Quand je fais des discours pour un public général en Flandre, je vois parfois, par des réponses dans le public, je vois la résonance des mythes. Mais on ne peut pas dire... Parmi les jeunes, je vois plutôt une mondialisation de l'histoire de la guerre mondiale. La réponse doit être très nuancée.
Bruno Bardewever, vous êtes le frère de Bardewever, président de la NVA, un parti qui s'est construit hein, sur ce mouvement flamand. On peut dire que les origines hein, donc de ces mythes, ce flamingantisme, ces inégalités pointées par les Flamands au niveau de linguistique, c'est véritablement le nœud qui continue, en fait, le nœud de nos problèmes communautaires qui continue jusqu'à maintenant ?
Oui, on peut dire ça, mais à l'autre côté, je vois un peu à mon étonnement qu'un parti comme le NVA ne prend pas l'histoire comme dans sa rhétorique politique. Ils sont plutôt dirigés sur le futur et je ne vois pas le NVA très présent autour de l'Isère et
Ils l'ont été quand même par le passé, parce que ces pèlerinages de l'Isère, c'était des vitrines politiques jusqu'à 10 ans.
Oui, c'est vrai, mais dans l'actualité, je ne vois pas mon frère, il n'utilise pas le tour de l'Isère pour son discours politique pour le moment. Hein. Je crois que l'NVA a peut-être changer un peu d'être un parti politique du centrisme aux Flandres et qui se veut délibérer un peu des romantiques et des mythes du passé.
Alors, on commémore justement la fin de la guerre qui va déboucher sur une période d'entre-deux-guerres où on va voir émerger des mouvements populistes. Beaucoup font le parallélisme avec ce qu'on vit actuellement, notamment en Europe, l'émergence de cette vague populiste, des inégalités qui se creusent. Est-ce qu'en tant qu'historien, qui est censé tirer les leçons du passé pour comprendre le présent et le futur, vous faites aussi ce lien entre le présent, là, maintenant, et cette époque-là ?
Ah, ces comparaisons sont toujours... compliqué, hein, parce que on voit clairement aujourd'hui que parmi les jeunes, la démocratie n'est plus conçue comme évident. Hein, il y a des sondages qui prouvent que parmi les jeunes pas flamands mais en Europe on voit que les idées autoritaires sont de nouveau là.
Et ces études montrent même que les jeunes seraient prêts à adouber des dictateurs. Ou en tout cas des leaders autoritaires.
Oui, il y a un sentiment qu'on a des problèmes que la démocratie ne peut pas résoudre. Mais je suis comme historien, plutôt aussi nuancé. Hein, parce
le populisme que je crois... actuel ne peut pas être comparé à celui
de... Non, parce que je crois que la démocratie aujourd'hui est beaucoup plus forte que dans les années 30. Et surtout, le train de vie, toute la situation socio-économique est incomparable avec le temps entre les deux guerres.
L'historien Bruno De Wever, interrogé par Thomas Galisseux. Et la première va continuer sa couverture de ces commémorations avec Demain à Transversal, réalisé par Françoise Barré entre midi et 13h, autour des objets et des correspondances des soldats de la Grande Guerre. Et puis un jour première spécial dimanche matin entre 8h et 10h avec François Heureux. Et c'est pour ça que je vous retrouve ce matin, Sophie Brême, ça va ?
Bonjour Midi, bonjour à tous, ça va très bien, merci, ravi de passer ce vendredi en votre compagnie. Vendredi, c'est le jour du poisson.
Et ravioli.
Hein, voilà, des poissons, ça c'est le mercredi, hein. Des poissons qui malheureusement ont de moins en moins de place dans les océans à cause de cette invention.
Cette année dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclée.
Alors la tendance peut-elle s'inverser ? Quatre jeunes y croient, en tout cas. Ils ont mis au point un projet de bateau qui recycle ce plastique des océans, qui le convertit même en carburant. Comment ça marche ? Simon Bernard fait partie de la bande et il sera avec nous à 8h30.
La première,
l'esprit clair.